إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, nous allons parler du cinquième pilier parmi les piliers de la foi, qui est le pilier de la croyance au jour dernier. Comme on le retrouve dans le hadith de Jibril alayhi salat wa salam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu au sujet de la foi, il a dit, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Al-imanu bil-yawm il-akhir. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jour après celui-ci. Il n'y aura pas de jour après celui-ci. C'est la dernière étape avant le paradis et l'enfer éternel. Car l'être humain, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a créé avec des étapes. La première dans le ventre de sa mère. La deuxième dans la vie d'ici-bas. La troisième dans la vie intermédiaire. Alam al-barzakh. Ou le monde de la tombe. Et la quatrième, le jour de la résurrection, qui est la dernière étape. Car après celle-ci, un groupe ira au paradis, un groupe en enfer. Et nous croyons au jour dernier, car Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans son livre, et ceci a été également mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de fois, Allah tabaraka wa ta'ala a joint entre la foi en lui et la foi au jour dernier. Car la foi au jour dernier, c'est ce qui oblige l'homme à s'empresser vers le bien et à s'éloigner du mal. Car il sait que la rétribution complète se fera le jour de la résurrection. La foi au jour dernier repose sur trois points. Premier point, croire en la résurrection. Al-Ba'th. C'est le fait de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala redonnera la vie après la mort, au deuxième souffle dans la trompe. Allah tabaraka wa ta'ala fera revivre les morts, ils sortiront de leur tombe, les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, nus et incirconcis. Deuxièmement, c'est le fait de croire dans al-hisab wa al-jaza, au compte et la rétribution. Et troisièmement, c'est le fait de croire au paradis et à l'enfer. Naam, faddal Muhammad, commence à lire inshallah.
Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La croyance au jour dernier. Nous croyons au jour dernier et c'est le jour de la résurrection, celui après lequel il n'y aura pas d'autre jour. Les gens seront ressuscités pour vivre éternellement, soit dans la demeure des délices, soit dans la demeure du châtiment douloureux. Nous croyons à la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala redonnera la vie aux morts lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompe pour la seconde fois.
Naam. Donc, les gens sortiront de leur tombe, qui est le jour de la résurrection, vivants, après que Israfil ait soufflé dans la trompe pour la deuxième fois. Et Israfil est un ange parmi les anges, comme on va l'entendre ici dans le verset.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera une seconde fois, et les voilà debout à regarder. Suratu Az-Zumar, verset 10. Les gens sortiront donc de leur tombe pour se présenter devant le Seigneur de l'univers, pieds nus, dévêtus, non circoncis. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Sourate Al-Anbiya, verset 104.
Naam. Ici, si quelqu'un voudrait rétorquer Comment les gens pourraient-ils supporter de rester dans cet état pendant 50 000 ans? Alors nous répondrons en disant que certes, les corps des gens le jour du jugement dernier seront totalement différents par rapport à leur état dans ce bas monde. Allah donnera à nos corps la force de la patience de supporter cela, ce qu'on n'aurait pas pu supporter dans ce bas monde. Et si quelqu'un disait, comment est-ce possible que les hommes et les femmes se retrouvent ce jour-là dans un même endroit alors qu'ils sont nus? Alors nous répondrons avec le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens seront rassemblés sans chaussures, nus et non circoncis. Alors notre mère Aïcha radiallahu anha a dit, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes ensemble, les uns regardant les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, la situation sera trop dure pour que cela les intéresse. Donc, ce jour-là, on sera trop occupé et l'affaire sera trop importante pour se soucier de ces choses. Aussi, il y a en cela, dans les versets qui ont été cités auparavant, la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala à ressusciter les morts. Et ceci est facile pour lui, subhanahu wa ta'ala, car il les a créés. Comme il a dit, comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons. Il l'a déjà créée du néant, subhanahu wa ta'ala, la création. Donc pour lui, la recréer ou lui redonner vie, c'est aussi facile que de la créer la première fois. Tout est facile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam.
Nous croyons au registre des actions qui seront remis dans la main droite, soit dans la main droite, soit par derrière le dos, dans la main gauche.
Naam. Ici, on parle d'un événement qui va se passer le jour du jugement dernier, qui est la remise des registres. Ce sont les registres des actions dans lesquelles sont écrites les actions des êtres humains. Toute chose aura été écrite. Comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala dans Surat Qaf, verset 18, dans le sens, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. De même dans Sourate Az-Zukhruf verset 80, ou bien estompe-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux, dans le sens des versets. Il faut savoir que les injustes diront ce jour-là, dans le sens comme il est venu dans Sourate Al-Kahf verset 49, malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le registre des bonnes actions sera remis au serviteur le jour du jugement dernier, soit dans sa main droite, alors il sera parmi les vainqueurs, et il tournera, et il courra le jour de la résurrection avec ce registre dans la main, en criant, Ha umuqra'u kitabiya, inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Regardez, lisez mon livre. J'étais sûr que j'allais rencontrer mon compte. C'est ça la vraie victoire. La vraie victoire, ce n'est pas aujourd'hui les gens, ils gagnent des choses éphémères de ce bas monde qui n'ont aucune valeur et qui courent dans tous les sens en train de crier. Voilà la victoire le jour du jugement dernier. Il va soulever son livre de la main droite et montrer à tous les gens le jour de la résurrection qu'il fait partie des vainqueurs. Contrairement à celui qui recevra son livre de la main gauche derrière le dos. Celui-là, il aura espéré ne pas recevoir son livre et il aurait espéré que la première mort soit la définitive, qu'il ne soit pas ressuscité pour retrouver ses comptes. Nas'Allah salamata wa al-afiyah. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala que l'on fasse partie des gens qui prendront leur livre de la main droite, qui seront parmi les vainqueurs et ceux qui seront réjouis le jour du jugement dernier. Naam.
فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis alors à un jugement facile et retournera tout réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et le brûlera dans un feu ardent. Voilà la déchirure, versets 7 à 12.
Allah musta'an. Donc on voit ici une partie de cette description de ce qui se passera le jour du jugement dernier concernant le croyant qui recevra son livre de la main droite et qui aura un jugement facile. Allah tabaraka wa ta'ala s'isolera avec son serviteur croyant et il ne dévoilera pas ses péchés. Il l'informera de ses péchés et le serviteur les reconnaîtra jusqu'à ce qu'il pense qu'il va périr. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui dira « Je n'ai pas dévoilé tes péchés dans la vie d'ici-bas et aujourd'hui je te les pardonne. » Ainsi, nous retirons de ce hadith qu'il est légiféré de cacher ses péchés et de ne pas les dévoiler. Et surtout pas de s'en vanter comme certains font. Ils se vantent des péchés qu'ils ont faits dans la période où ils étaient loin de la religion ou bien dans la jahiliya. Ceci est une erreur. La personne, il doit avoir honte de ses péchés et il doit les cacher. Non.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Sourate al-Isra, verset 13 à 14. À chaque homme, nous avons attaché son œuvre à son cou, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un livre qu'il trouvera déroulé. Lis ton livre, tu te suffis aujourd'hui d'être ton propre comptable. Nous croyons aux balances qui seront mises en place pour peser nos œuvres le jour de la résurrection et nous croyons que nulle âme ne subira d'injustice.
Non, le cheikh, rahimahullah, parle d'un autre élément essentiel qui fait partie de la croyance au jour dernier. C'est la croyance en la balance. Les balances qui sont mentionnées dans le Coran et la Sunna sont une balance réelle. Et ce qui sera pesé dans les balances sont trois choses. Premièrement, la personne elle-même. La preuve de cela se trouve dans le hadith où Abdullah ibn Mas'ud un jour est monté sur un arbre pour prendre un bâton de harak, le siwak, le bâton avec lequel on fait le siwak. Alors, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aperçurent de la minceur des jambes d'Abdullah ibn Mas'ud et se mirent à rire. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, ses jambes sont plus lourdes dans la balance que le mont de Uhud. » La deuxième chose qui est pesée dans la balance, ce sont les actes. La preuve de cela se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Il y a deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance et bien aimées du tout miséricordieux, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. » La troisième chose qui sera pesée dans cette balance, ce sont les registres. Et la preuve de cela se trouve dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme viendra le jour de la résurrection avec une carte et on pourra lire sur la carte « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ». Ces registres seront mis dans un plateau de la balance, la petite carte dans l'autre plateau et cette petite carte fera pencher la balance et voler les registres. Naam.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de mal le verra. Sourate la secousse, versets 7 à 8. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui auront ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement en enfer. Le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Surat al-Mu'minun, versets 102 à 104. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجَزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Sourate Al-An'am, verset 160. Quiconque viendra avec une bonne œuvre aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec une mauvaise œuvre ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice.
Naam, on voit donc dans ces versets une partie de ce qui a été cité auparavant. Le fait que chaque personne verra le bien et le mal qu'il a fait, même ne serait-ce que le poids d'un dharra. Dharra, c'est pas un atome en vérité. Parce qu'à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, où le Coran était révélé, le mot dharra ne voulait pas dire atome. C'est maintenant que ce mot a été transformé dans ce sens-là, c'est-à-dire moderne. En vérité, zarra, c'est une toute petite fourmi, minuscule, la plus petite fourmi qui soit. C'est quelque chose de minuscule. Non. De même que la deuxième partie de verset qui a été lue par notre frère, qui parle de ceux qui auront la balance lourde de bonnes actions, qui seront parmi les gagnants, et ceux qui auront la balance légère, ce seront eux les ruinés, qui auront ruiné leurs propres âmes. Car en réalité, chacun travaille pour sauver son âme, ou bien pour l'amener à sa perte. Personne ne fait du mal à quiconque à part à sa propre personne. Tout le monde sur cette terre est éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Celui qui fait de l'injustice, il est éprouvé. Celui qui subit l'injustice, il est éprouvé. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Nous vous avons fait les uns pour les autres des tentations. Allez-vous patienter? Tout le monde est éprouvé. L'important, c'est de savoir, est-ce qu'on remplit sa balance de bonnes actions et on ne remplit pas la balance de mauvaises actions? C'est ça le plus important. Tout le reste n'est que l'épreuve. Allah décide et détermine l'épreuve de chacun comme il le souhaite avec sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Puis, il a été cité dans les derniers versets qui ont été lus, que par la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et sa grâce, chaque personne qui fait une bonne action, Allah lui en donnera 10 pareils, et il est venu dans certains hadiths qu'ils seront multipliés encore par 700 et encore plus. Ceci est une grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Man ja'a bil hasana. Et le verset dit, man ja'a, celui qui viendra, c'est-à-dire celui qui a préservé cette bonne action jusqu'à qu'elle soit présentée à Allah. C'est-à-dire, il n'a pas annulé ses œuvres. Il a fait une bonne œuvre, après il l'a annulée. C'est possible. Quelqu'un peut faire une œuvre pour Allah et il l'annule. Comment il l'annule? Il l'annule en faisant des vexations. Par exemple, quelqu'un a fait un don à un pauvre. Après, il le vexe. Celui-là, il a annulé son don. Ou bien il se vante du don qu'il a fait. Il a annulé son don. De même, celui qui fait une bonne action à la base, qui est pour Allah, puis après qui change son intention, qui se vante, ou qui fait des vexations, ou qui fait certaines choses qui annulent son œuvre, alors celui-là, il ne se présente pas à Allah avec sa bonne œuvre. C'est pour ça, ici, dans le Coran, il est dit « Man ja'a bil hasana ». Celui qui a amené, qui se présente, qui viendra avec la hasana. Donc, il ne suffit pas de combattre Shaytan et son âme pour faire la bonne action. Il faut faire des efforts pour la faire correctement et pour la préserver, pour ne pas l'annuler après qu'on l'ait faite. Non. Ceci est la grâce d'Allah Ta'ala. À la différence des péchés qui ne seront pas multipliés. Non.
Nous croyons en la plus grande intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa permission afin qu'il commence le jugement entre ses serviteurs. Au moment où le chagrin et le tourment les auront atteints d'une façon insupportable. Ils partiront d'abord demander l'intercession auprès d'Adam alayhi salam, puis Nuh alayhi salam.
Alors ici, il est passé à une autre situation et un autre cas qui se passe le jour du jugement dernier qui est al-shafa'atul-uzma, la grande intercession qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il y a certaines intercessions qui sont spécifiques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme la grande intercession, comme le fait qu'il ait intercédé pour son oncle Abu Talib pour que son châtiment soit diminué en enfer, comme le fait qu'il va intercéder pour que les portes du paradis soient ouvertes, que les gens entrent au paradis. Tout ceci est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Puis il y a des intercessions qui ne sont pas spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède, ainsi que les croyants pieux et même les anges, comme le fait d'intercéder pour les grands pécheurs parmi les musulmans, comme le fait d'intercéder pour certains croyants qui sont à des degrés plus bas du paradis pour qu'ils aient des degrés plus hauts. Ceci n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres à part lui ont aussi droit à cette intercession par la volonté d'Allah pour celui qu'Allah agrée et après sa permission. Amma, cette intercession dont on parle ici, c'est shafa'atul uzma, la grande intercession. C'est-à-dire l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le jugement commence. Parce que les gens, ils ne supporteront plus d'attendre, de ne pas connaître leur sort, de ne pas savoir, de rester comme ça à attendre. C'est une attente insupportable. Alors, ils vont demander intercession juste pour que le jugement commence, peu importe le résultat. Et ceci se déroulera, donc cette grande intercession, le jour du jugement dernier. C'est un jour dont la durée sera, comme on a dit, de 50 000 années. Il n'y aura ni construction, ni arbres, ni vêtements, ni rien. La terre aplanie, plate. Le soleil se rapprochera des têtes des gens à la distance d'un mille. Un mille, cela peut vouloir dire la distance connue chez les Arabes, ou bien un mille, c'est le bâtonnet avec lequel on met le kohl dans les yeux. Et les gens seront dans leur sueur. qui arrivera à différentes hauteurs selon leurs œuvres. Certains seront même noyés dans leur sueur. Ce jour sera un jour immense et terrible. Alors les gens chercheront un intercesseur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour les sauver de cette situation. Ils partiront donc d'abord demander l'intercession du père des hommes, Adam alayhi salam, et ils vont rappeler ses mérites et ses qualités. Mais Adam s'excusera en disant qu'il a désobéi à son Seigneur en mangeant de l'arbre et dira « Allez vers un autre que moi, allez trouver Nuh alayhi salam ». Puis auprès de Nuh, donc le frère il s'est arrêté à là, ils partiront d'abord demander l'intercession auprès de Adam, puis auprès de Nuh. Donc, ensuite, ils iront auprès du prophète Nuh alayhi salam pour lui demander d'intercéder pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lui aussi s'excusera et il dira qu'il avait le droit à une seule invocation exaucée et il l'a déjà utilisée contre son peuple. Il dira donc ensuite « Allez vers un autre que moi, allez trouver Ibrahim, puis auprès de Moussa, puis auprès de Isa ». Qu'il leur dira d'aller la réclamer auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils vont aller voir Ibrahim alayhi salatu wa sallam et lui rappelleront ses mérites et ses qualités afin qu'il intercède pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, il s'excusera et il dira qu'il a menti 3 fois. Bien sûr, ce ne sont pas des mensonges. Mais il a appelé ça un mensonge par piété, par crainte d'Allah. En réalité, il n'a pas menti, Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Naam. Alors ils iront voir Moussa alayhi salatu wa salam, mais il s'excusera et dira qu'il a tué une âme dont il n'avait pas reçu l'ordre de tuer. Pareil, c'était involontaire. Moussa alayhi salatu wa salam, il ne l'a pas tué volontairement. C'est quand il a voulu défendre une personne de son peuple contre un copte. Il l'a tapé sur la poitrine juste pour le repousser et Allah lui a donné une grosse force à Moussa alayhi salam. Il l'a tué d'un coup. Alors il a dit alayhi salam, allez vers un autre que moi, allez voir Isa. Puis ils iront voir Isa, lui ne parlera pas de faute commise, mais il dira, adressez-vous à un autre que moi, allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand ils iront réclamer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les gens par la volonté d'Allah, il va se prosterner et Allah va lui insuffler des louanges. Et Allah va lui dire de lever la tête et va lui demander d'intercéder et que son intercession sera acceptée. Naam. Puis alors il intercédera et il demandera qu'Allah commence le jugement. Et Allah tabaraka ta'ala commencera à faire le jugement et les comptes entre les gens.
Nous croyons aussi en intercession en faveur de ceux qui, parmi les croyants, rentreront en enfer afin qu'ils en sortent. Elle sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ainsi qu'aux autres prophètes, aux croyants et aux anges.
Nous croyons comme... ici une catégorie d'intercession qui n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelle l'intercession envers les pécheurs monothéistes. L'intercession envers les pécheurs monothéistes qui sont entrés en enfer par la justice d'Allah à cause de leurs péchés qu'ils ont commis, mais qui étaient monothéistes, qui sont musulmans, croyants, qui ne sont pas des mécréants. Donc, il y aura 3 catégories de gens qui pourront intercéder pour les croyants, les prophètes, les croyants, et ceci comporte les véridiques, les martyrs et les pieux, ainsi que les anges. Et il y a 2 groupes, 2 sectes égarées qui ont nié cela. Ce sont les Khawarij, les Kharijit et les Mu'tazila. Car ils ont comme croyance que celui qui fait un grand péché ira obligatoirement en enfer éternellement et que l'intercession ne lui profitera pas. Et certes, ceci est un égarement et contradictoire au texte du Coran et de la Sunna authentique.
Non. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra sortir de l'enfer des personnes parmi les croyants sans intercession par sa grâce et sa miséricorde.
Naam. Donc, l'intercession, c'est le fait d'être l'intermédiaire pour intercéder pour obtenir un bien, comme le fait d'entrer au paradis ou repousser un mal, que la personne sorte de l'enfer. Mais certaines personnes, parmi les croyants, bénéficieront directement de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sans intercession. Car le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala agit avec ses serviteurs de 2 manières. Soit par justice, soit par miséricorde. Nous demandons qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit miséricordieux envers nous ce jour-là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fil sama. » Allah fait miséricorde aux gens miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Celui qui veut gagner la miséricorde d'Allah, il faut qu'il soit miséricordieux avec les serviteurs d'Allah sur terre.
Nous croyons au bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, dont l'eau est plus blanche que le lait, plus délicieuse que le miel, dont l'odeur est meilleure que celle du musc, dont la longueur est d'une distance égale à un mois, ainsi que sa largeur. Ces récipients sont comme les étoiles dans le ciel, de par leur beauté et leur nombre. Viendront y boire les croyants de sa communauté, et quiconque y boira ne ressentira plus jamais la soif. Rapporté par Al-Bukhari, 7573 et Muslim, 182-195.
Donc là, on parle d'un autre point, et d'une autre situation, et d'un autre événement, et d'une autre information véridique concernant le jour du jugement dernier, qui est Al-Hawd, le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et il a informé les gens qu'il l'a vu. Donc le bassin est présent et il existe actuellement, mais il fait partie du monde de l'imperceptible et de l'invisible. Donc nous ne pouvons nous maintenant le voir. Cependant, il sera visible le jour de la résurrection. Et ce jour-là, certaines personnes seront repoussées du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes, ce sont ceux qui ont changé et qui ont innové. Les innovateurs, ils seront repoussés. Certains savants ont dit que les autres prophètes auront également leur bassin, car il y a un hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Chaque prophète aura un bassin ». Mais le plus immense bassin est le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car sa communauté est la plus grande des communautés. Il faut savoir que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bassin dans lequel le fleuve du Kawthar coule.
Nous croyons au pont dressé au-dessus de l'enfer. Les gens le traverseront en fonction de leurs œuvres. Le premier d'entre eux le traversera à la vitesse de l'éclair, puis le suivant à la vitesse du vent, le suivant à celle d'un oiseau, puis à celle de l'homme le plus rapide. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam se tiendra sur le pont et dira « Ô Seigneur, sauve-les, sauve-les ».
Allahu Akbar. Donc, chacun traversera le pont selon les actes qu'il a fait dans ce monde. On voit aussi encore ici la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam qui va invoquer Allah de nous sauver, de ne pas tomber du pont Sirat. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wasallam demandera de sauver les gens qui passent sur le pont. Et ceci nous montre l'importance et la gravité et l'immensité de cet instant. Car si on sait ce qu'il y aura en dessous quand on tombe, on comprendra donc la gravité et l'immensité de cet instant. Car en dessous, il y a le feu de l'enfer. Et sur les côtés de ce pont, il y a des crochets qui tirent les gens pour les tirer en enfer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquera pour que les gens soient sauvés à ce moment-là.
Cela se poursuivra jusqu'à ce que les œuvres des serviteurs ne suffisent plus. Puis viendra celui qui le traversera en rampant. Sur les côtés du pont, il y aura des crochets accrochés recevant des ordres, se saisissant de celui qui leur aura été désigné. Certains subiront des égratignures, mais réussiront à passer, tandis que d'autres seront saisis et tomberont en enfer, apporté par Al-Bukhari et Muslim.
Quant aux mécréants, ils ne traverseront pas le pont Sirat et ils seront jetés directement en enfer.
Nous croyons en tout ce qui se trouve dans le livre et la sunnah comme information concernant ce jour et ses affres. Qu'Allah nous aide au sujet de ses affres, nous les rende faciles par sa générosité et sa faveur.
Amin. Donc ceci est une parole générale du cheikh et ce que le cheikh désigne ici par la sunna, bien sûr la sunna authentique, car il y a beaucoup de hadiths faibles qui ont été rapportés au sujet des affres de l'au-delà.
Nous croyons l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam au sujet des gens destinés au paradis afin qu'ils y rentrent. Cette intercession est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam.
Donc voici encore un autre type d'intercession qui est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lorsque les gens du paradis iront vers les portes du paradis, ils trouveront celles-ci fermées. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam intercédera par la volonté d'Allah. Bien sûr, ceci est un moyen d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Car Allah ta'ala ouvre les portes à qui il veut. Mais c'est un moyen de l'honorer et de montrer son haut rang. Et les gens du paradis entreront au paradis par la cause de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam.
Nous croyons au paradis et à l'enfer. Le paradis est la demeure des délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux croyants pieux. On y trouve comme délices ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit humain ne peut imaginer. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce que l'on a caché pour elle comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'elle faisait. Surat al-Sajda, verset 17.
Allahu Akbar. Tout ce qu'on peut voir comme délice dans ce bas monde n'est rien par rapport aux délices de l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme l'un de vous qui trempe son doigt
dans la mer ou dans un fleuve, puis qu'il le retire, qu'il regarde donc ce qu'il en a pris. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jour du jugement dernier, la personne qui s'est réjouie le plus dans ce bas monde, parmi les mécréants, sera à peine trempée en enfer. Et il lui sera demandé à ce moment-là, « As-tu déjà connu le bonheur ?» Il va dire « Non, par Allah, jamais. » Puis on va prendre celui qui a le plus souffert parmi les croyants dans ce bas monde, et il sera trempé au paradis, et ressorti, juste trempé et ressorti. Et il lui sera demandé « As-tu déjà connu le malheur ?» Il va dire « Par Allah, non. » Juste être trempé au paradis et en enfer, ça leur suffira pour oublier tous les plaisirs de ce monde pour celui qui a été trempé en enfer et toutes les difficultés de ce monde pour celui qui a été trempé au paradis. Non. La place d'un arc au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la place dans laquelle on pose un arc au paradis, c'est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Toute personne qui entre au paradis, il aura au minimum 4 paroles qui lui seront citées. Il t'appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Il t'appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Il t'appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. Il t'appartient désormais de prendre des plaisirs et de ne plus jamais être misérable. Dès que la personne entre au paradis, voilà les 4 paroles qu'il entend. Juste pour une de ces 4 choses-là, il y a des gens dans ce bas monde, ils seraient prêts à vendre le monde ou à tout faire pour atteindre une de ces 4. Qu'Allah nous fasse parmi les habitants du paradis, parmi les hauts degrés du paradis. El Firdaus al-A'la, ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Naam.
L'enfer est la demeure du châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux mécréants injustes. On y trouve comme châtiment et punition ce que l'on ne peut imaginer. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghifu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuve d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Sourate la caverne, verset 29. Le paradis et l'enfer existent en ce moment même pour toute l'éternité. Ils ne disparaîtront jamais.
Non, ça c'est un point très important ici. Donc il a cité d'abord un verset parlant de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et quel est l'état des personnes qui demandent juste à boire, à être abreuvées, qui seront abreuvées d'une eau comme du métal fondu. Quand ils approcheront cette eau pour la boire, il brûlera leur visage. Le paradis et l'enfer existent en ce moment. Ils ont déjà été créés et ils existent en ce moment. Et le paradis et l'enfer ne se détruiront jamais, contrairement à ce que certains disent concernant l'enfer. Ils ont été créés et ils sont éternels. Ils ne disparaîtront jamais.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Sourate Al-Talaq, verset 11. Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il les fera rentrer dans les jardins, dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah lui a donc accordé une belle rétribution. Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Sourate Al-Ahzab, verset 64-66. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leur visage sera tourné et retourné dans le feu, ils diront « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. »
Le Coran en entier est rempli de versets qui parlent des délices du paradis, des châtiments de l'enfer. Problème, c'est que la communauté s'est éloignée du Coran. Elle s'est éloignée de la lecture du Coran et de sa méditation. Peu sont ceux qui lisent quotidiennement le Coran, et encore moins ceux qui le lisent et qui méditent l'essence du Coran. Ce Coran qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle la réalité de ce bas monde et la réalité de l'au-delà. Et on voit ici dans ces versets l'état de ces gens-là, des infidèles, des koufars, pour lesquels Allah a préparé la fournaise. Cet enfer dans lequel ils resteront éternellement, sans n'y trouver ni mort, ni repos, ni allié, ni secoureur. Le jour où leur visage sera tourné et retourné dans le feu de l'enfer, ils diront « Ya laytana ». Hélas, malheur à nous, pourquoi on n'a pas obéi? Si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager. Mais ce jour-là, les regrets seront trop tard. Non. Donc, il nous est obligatoire de croire en tout cela et de croire que l'enfer est éternel tout comme le paradis et qu'ils ne disparaîtront jamais et que pour chacun, il y a des habitants qui ont été destinés pour y demeurer éternellement.
Non. Nous témoignons ainsi aussi qu'Allah accordera le paradis à tous ceux que le livre et la sunna ont désignés, en particulier ou en général par la description. Non. Quant à la désignation en particulier, il y a, entre autres, celle de Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ainsi que tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a désignés. Quant à la désignation, en général, via la description, elle englobe tout croyant pieux. Nous témoignons également qu'Allah accordera l'enfer à tous ceux que le livre et la sunna ont désignés, en particulier ou en général, par la description. Quant à la désignation en particulier, il y a, entre autres, celle de Abu Lahab et de Amr ibn Luhay al-Khuza'i, ainsi que d'autres.
Alors, ici, le cheikh nous parle d'un autre point. Parmi les points de la croyance des gens de la Sunna, c'est que l'on n'atteste du paradis et de l'enfer à personne en particulier sans une preuve. C'est-à-dire, ceux que Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont désigné comme faisant partie des gens du paradis de manière particulière en citant leur nom, on doit y croire. Et ceux qui n'ont pas été cités en particulier en citant leur nom, mais de manière générale en citant leur particularité, leur qualité, leur description, on doit y croire. De même pour les habitants de l'enfer. Ici, il a donné l'exemple de Abu Lahab qui a été cité dans Sourate Al-Masad. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa amra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. » Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibres. Puis, il a cité Amr ibn Luhay al-Khuza'i et d'autres.
Quant à la désignation en général, via la description, elle englobe tout mécréant, tout polythéiste pratiquant le polythéisme majeur ou tout hypocrite.
Non. Donc, on dit que tout mécréant est dans le feu de l'enfer. Et tous ceux qui font du polythéisme majeur sont dans le feu de l'enfer. Et tout hypocrite d'hypocrisie majeure, c'est-à-dire celui qui montre l'islam et qui cache la mécréance, il est en enfer. C'est une généralité que l'on atteste. Et ici vient se poser une question. Est-ce qu'il est permis d'attester pour un mécréant précisément qui est en vie, un mécréant qui est en vie, qui n'est pas encore mort, d'attester de l'enfer pour lui? Non, ceci n'est pas permis. Car il est possible qu'il se convertisse à l'islam, qu'il se repente. Alors que celui qui est mort mécréant dans le kufr, on dit que toute personne qui est morte dans le kufr est en enfer. Puis les savants ont divergé concernant le mécréant qui est mort sur la mécréance. Est-ce qu'on atteste particulièrement pour lui qu'il est en enfer ou non? Certains ont dit oui. Si on est sûr qu'il est mort sur la mécréance, on dit il est en enfer. D'autres ont dit non, car on ne sait pas si en cachette il s'est repenti. On laisse ça Allah. Par contre, dans les lois de ce monde, on le considère comme un mécréant. On n'invoque pas Allah pour lui, on ne prie pas pour lui, mais on se retient de dire « cette personne est en enfer ». Les personnes qui ont dit oui, ils ont dit « s'il n'y a rien d'apparent qui montre qu'il s'est repenti, qu'il a accepté l'islam, et qu'on a la certitude qu'il est mort sur la mécréance, selon son apparence, on dit « cette personne est en enfer ». D'autres ont dit « non, on ne peut pas se permettre cela, car on ne connaît pas ce qu'il a fait en cachette, il a pu se repentir et rentrer en islam en cachette ». Alors, on laisse ça à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais, cela ne change rien dans les règles de ce bas monde. Tous sont d'accord pour dire, toute personne dont on ne connaît pas qu'il est mort sur l'islam, on le juge mécréant dans ce bas monde. C'est-à-dire, on ne prie pas sur lui, on n'invoque pas Allah pour lui, il n'y a pas l'héritage entre lui et ses enfants, etc. S'ils sont musulmans. Non. Alors, le cheikh a dit, rahimahullah, nous croyons à l'épreuve de la tombe, qui est l'interrogatoire que subit le mort dans sa tombe, à propos de son Seigneur, sa religion et son prophète. Donc, ceci, nous y croyons comme il est venu dans le hadith de Munkar et Nakir, qui viennent poser ces trois questions. D'ailleurs, ce sont les trois principes de base que chaque musulman doit connaître, et c'est le sujet du livre « Thalathatul Usul », les trois principes de base de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Alors, Allah a fermé ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, comme il a dit dans Sourate Ibrahim verset 27. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Puis le croyant dira, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad. Tandis que le mécréant et l'hypocrite diront, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai dit. Nous croyons aux délices de la tombe réservée aux croyants, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, ceux dont les anges prennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Donc tout ceci fait partie des croyances des gens de la sunna, les délices et les châtiments de la tombe, contrairement aux ibadiyya qui refusent cela, les Mu'tazila, ils ne croient pas à cela. Ils rejettent les versets et les hadiths qui parlent de cela. Non. Puis, nous croyons au châtiment de la tombe réservé aux injustes mécréants. Non. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Dans le sens des versets, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains disant « Laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être rétribués par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. » Donc dans ces versets, on voit cette croyance qui consiste à dire qu'il y a dans le monde de la tombe, c'est-à-dire dans le monde du barzakh, en attendant la résurrection, des délices et des châtiments. Si les gens disent, comment, quand la personne est enterrée dans la terre, les anges pourront lui dire, entrez au paradis? La réponse à cela, c'est qu'il a été rapporté authentiquement qu'on ouvrira aux défunts croyants une porte sur le paradis et il en recevra le souffle et les biens. Ainsi, il incombe aussi aux musulmans de demander à Allah tabaraka wa ta'ala dans la salat, avant le teslim, de lui demander protection contre le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe. Ce dua que l'on dit avant le salam, après la salat sur le prophète, alayhi salatu wa salam, qui est « Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri, wa min adhabi jahannam, wa min fitnati al-mahya'i wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masihi al-dajjal. » Puis le cheikh, il a dit les hadiths traitant de ce sujet sont nombreux et bien connus. Il est donc du devoir du croyant de croire en tout ce que le livre et la sunna ont rapporté à propos des choses touchant de l'imperceptible, de ne pas s'y opposer en les comparant avec ce qu'il voit dans ce bas monde, car les choses de la vie dernière ne peuvent être comparées à celles de la vie présente, étant donné l'énorme différence qu'il existe entre les deux et qu'Allah nous vienne en aide. Il est donc obligatoire pour chaque croyant de croire en toutes ces informations véridiques qui nous ont été transmises dans le Coran et dans la Sunna authentique concernant l'au-delà. Nous y croyons, nous nous y soumettons et nous ne disons pas comment et pourquoi. Le croyant dit simplement « nous avons entendu et nous y croyons ». Voilà ce que l'on peut dire en résumé, Inch'Allah, sur ce chapitre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.